Salut, moi c'est Victor Durand Lepeuch, et ceci n'est pas un épisode de Comme un poisson dans l'eau. Je vous avais promis que je vous abandonnerais pas complètement pendant l'été, et même si je sais que vous êtes beaucoup à avoir des épisodes en retard et donc à écouter pendant l'été, je voulais quand même profiter de cette petite pause dans les épisodes de Comme un poisson dans l'eau pour vous faire découvrir un autre podcast engagé que j'aime énormément et qui risque fort de vous plaire. Il s'appelle Présage, il est animé par Alexia Soyeux, et ça parle d'écologie mais d'un point de vue assez large, qui prend en compte les rapports de pouvoir et de domination, et les questions de justice et de lutte sociale. Il y a énormément d'épisodes passionnants et enrichissants à aller découvrir, j'avais notamment beaucoup aimé l'entretien avec Myriam Bahafou sur les écoféminismes, ou celui avec Elisabeth Fetti, l'animatrice du podcast Méta de choc, pour qui j'ai également beaucoup d'admiration. Alors abonnez-vous à Présage, partagez-le, et allez découvrir tous ces épisodes incroyables. Mais en attendant, pour achever de vous convaincre, je vous donne à entendre ici un des épisodes que je juge important sur un sujet dont on parle encore beaucoup trop peu, la question du validisme ou du capacitisme. C'est un entretien avec la docteure en philosophie, psychologue et militante antiféministe Charlotte Puiseux. Je vous en dis pas plus, et je vous laisse avec cet entretien de Présage. Bisous.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Charlotte Puiseux. Charlotte Puiseux est doctorante en philosophie, psychologue et militante antiféministe. Son livre « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste » est paru il y a peu. Elle y décrit le système d'oppression envers les personnes handicapées qu'est le validisme, en retraçant son parcours personnel et son cheminement intellectuel et militant, qui lui a permis d'analyser de façon croisée les sujets du validisme, du sexisme et du capitalisme. Le handicap, qui recouvre des réalités diverses, concerne environ 12 millions de personnes en France, soit 20% de la population. Le validisme est un concept forgé pour penser l'oppression systémique des personnes handicapées. Il permet de questionner la norme du corps valide et sain et les discriminations causées par cette domination qui affectent toutes les sphères de la société, que ce soit l'accès au transport ou au bâtiment, l'éducation, le travail, la culture, la médecine, les loisirs ou la vie sociale. Le modèle médical du handicap, encore dominant aujourd'hui, considère que le handicap est le résultat d'un corps défaillant qui doit être redressé à tout prix. Une vision caritative et misérabiliste y est associée, qui empêche de traiter le sujet du handicap comme un sujet politique et de considérer les personnes handicapées comme des sujets de droit et non plus des objets de soins. Lutter contre le validisme est donc un enjeu politique majeur, particulièrement en France qui est très en retard sur le sujet, afin d'abolir la ségrégation et la hiérarchisation des vies et de mettre en lumière que le handicap est une construction sociale. Avant de lancer l'épisode, je voulais vous rappeler que Présage est un podcast indépendant et gratuit depuis 2018. La meilleure façon de me soutenir est de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, de partager les épisodes et de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Charlotte Puiseux, bonjour.
Bonjour.
Vous avez sorti un livre important il y a quelques mois qui s'appelle « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». C'est un livre qui est à la fois facile d'accès et très agréable à lire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le validisme et en quoi c'est un système ?
Le validisme, c'est, pour résumer très brièvement, le système d'oppression qui touche les personnes handicapées, donc enfin dites handicapées. Puisqu'on va voir, je vais expliquer par la suite que justement les identités handicapées valides sont des constructions sociales. Voilà, mais en tout cas, le système validiste, il touche ces personnes qui sont catégorisées comme handicapées et il crée une hiérarchie en fait entre les vies de ces personnes dites handicapées et les personnes dites valides en opposition. Une hiérarchie qui du coup met la vie des personnes valides comme supérieure à celle des personnes handicapées. Et du coup, cette hiérarchie, elle justifie de façon plus ou moins implicite, de façon plus ou moins consciente, tout un tas de discriminations, de stigmatisations vis-à-vis des personnes handicapées. Donc, les stigmatisations, les discriminations qui peuvent être bien sûr très violentes, hein, on peut penser à des choses très haineuses, des crimes, des choses vraiment très 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 graves. Mais le validisme, c'est pas que ça. C'est aussi des choses beaucoup plus subtiles, quotidiennes. Et je dirais, c'est quand même beaucoup, très souvent ça, parce que bon, même si on trouve encore, bien sûr, comme je disais, des crimes de haine envers les personnes handicapées, c'est quand même quelque chose qui, heureusement, révolte quand même en principe les gens. Mais le validisme, encore une fois, il se manifeste aussi dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions quotidiennes où justement les personnes qui font ces actions, ces personnes valides qui font ces actions n'ont pas forcément toujours conscience que c'est du validisme, que c'est perçu comme tel de la part des personnes handicapées. On cite par exemple le validisme bienveillant, souvent pour expliciter un peu cette idée, voilà, de avec la notion d'aide, par exemple, beaucoup de personnes handicapées vont expliquer que quand elles se retrouvent dans l'espace public et qu'elles ont du coup un handicap visible, hein, puisque identifiable de l'extérieur directement, elles vont être accostées par des personnes qui vont leur demander si elles ont besoin d'aide. Juste parce qu'elles sont là dans l'espace public et handicapées, alors qu'elles ne demandent rien, qu'elles n'ont pas forcément voilà de comportement qui incite à penser ça. Et ça, c'est un exemple de validisme bienveillant qui remonte souvent dans les témoignages des personnes handicapées, qui est très 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 voilà très lourd à supporter au quotidien, parce qu'en fait c'est quand on est dans l'espace public. C'est ce que voilà, j'explique un peu aussi dans mon livre. On a l'impression que nos vies, nos corps, ne nous appartiennent plus. C'est les personnes valides pensent qu'elles ont le droit en fait de venir nous parler comme ça pour nous poser souvent des questions très indiscrètes. Pourquoi vous êtes handicapé? Pourquoi vous êtes en fauteuil? Enfin, moi, je suis en fauteuil. Donc c'est là, je parle de voilà, de ce que j'ai pu vivre ou de ce qu'ont pu me raconter d'autres personnes en fauteuil. Voilà, on est dans des espaces publics en train de manger au restaurant, dans un café, avec nos amis, notre famille, on ne demande pas, voilà, à être forcément accosté, mais, et on ne le ferait pas avec des personnes valides. Mais en l'occurrence, là, comme on est handicapé, les personnes valides ont l'impression qu'elles peuvent, voilà, venir nous demander des choses très indiscrètes. Nos corps, nos vies appartiennent à l'espace public en fait. il y a plus de barrières entre voilà ce qui peut se faire ou ce qui ne se fait pas. Ça c'est voilà un exemple par exemple de validisme bienveillant. Mais après ça peut être aussi le validisme, c'est vraiment quelque chose qui fait système parce que ça touche toutes les sphères de la société. On parle vraiment de quelque chose qui impacte voilà, le logement, le travail, l'école pour les enfants, les loisirs, la médecine, la vie amoureuse, amicale, la culture, enfin vraiment tout ce qui fait notre quotidien en fait de personnes vivant en société va être impacté par le validisme et donc des discriminations qui vont être faites vis-à-vis des personnes handicapées, qui du coup bah vont par exemple pas pouvoir trouver de logement accessible, vont pas pouvoir sortir de chez elles parce que l'environnement est pas accessible, donc elles vont pas pouvoir aller au magasin du coin, au café du coin, donc ça va impliquer qu'elles vont pas pouvoir rencontrer de gens, pas pouvoir sociabiliser, pas pouvoir se faire des amis, pas pouvoir rencontrer des amoureux ou amoureuses, enfin ça a plein d'impact, pas pouvoir faire de loisirs, se détendre, voilà, pas pouvoir travailler bien sûr, pas pouvoir se déplacer. Le taux de chômage des personnes handicapées il est très très nettement supérieur à celui des personnes valides, hein, on le voit. Ça s'explique par un manque d'accessibilité. Donc l'accessibilité c'est au sens large, hein, c'est moi je suis en fauteuil donc je pense forcément à l'accessibilité physique, voilà, qu'il n'y ait pas de marche, qu'il y ait un ascenseur s'il y a un étage. Mais l'accessibilité, c'est pas que ça, c'est aussi avoir un interprétariat en langue des signes, par exemple, ou des écritures en braille. Enfin, voilà, ça peut être vraiment tout un tas de dispositifs différents. Mais en tout cas, oui, donc voilà, pas d'accessibilité, un taux de chômage très élevé et une précarité énorme, parce qu'on voit aussi que les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler et qui vivent donc avec une allocation qui s'appelle l'allocation adulte handicapé, l'AAH, c'est une allocation qui est en dessous du seuil de pauvreté. Même à son maximum, elle est en dessous du seuil de pauvreté. Donc,
et en plus, c'est pas facile à obtenir.
Exactement, parce que normalement, il y a un délai légal de 3 ou 4 mois pour que les MDPH, donc les maisons départementales des personnes handicapées, qui traitent toutes les demandes voilà, d'aide, de carte d'invalidité, de reconnaissance de travailleuses, travailleurs handicapés, enfin, qui traitent toutes ces questions et qui donc attribuent ou non l'AAH, a normalement un délai oui, de 3 ou 4 mois pour donner une réponse, ce qui est très, très, très loin d'être le cas en réalité, surtout qu'il y a des énormes disparités départementales, puisque c'est des maisons départementales, donc il y a des traitements qui peuvent être des fois de 1 an, voire plus, dans certains départements. Donc évidemment que ça peut être très très long, et du coup, quand on n'a pas d'autres moyens de revenus, c'est très compliqué. Et puis même, voilà, même quand on touche l'AAH, encore une fois, on vit avec une allocation en dessous du seuil de pauvreté. Donc,
c'est quoi, c'est 900 euros, un truc comme ça, non
maximum. Oui, maximum, ouais, exactement.
Donc on estime que c'est normal de donner 900 euros pour vivre à une personne handicapée.
Bah, c'est qu'en fait, oui, c'est des personnes qui sont jugées comme ne pouvant pas travailler, et donc qui vont devoir vivre toute leur vie, qu'on va condamner à vivre dans la précarité, en fait, puisqu'on ne leur donne même pas de quoi vivre décemment, ce qu'on a estimé comme étant voilà le seuil de pauvreté pour bien vivre en France. On leur donne même pas ça, en fait. Donc en fait, on les condamne à vivre dans la précarité, mais en leur disant qu'elles doivent quand même être contentes parce qu'elles ont quand même une allocation. donc en fait, voilà, c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la hiérarchie des vies. Une vie de personne handicapée, elle vaut moins qu'une vie de personne valide. Et elle vaut moins, y compris en termes de revenus et de précarité. C'est normal, entre guillemets, que les personnes handicapées soient pauvres et leur précarité est socialement organisée.
C'est ce que vous montrez tout au long de votre livre, que le validisme, ça repose sur le fait que les corps valides sont considérés comme ayant plus de valeur que les corps désignés comme handicapés, et donc ça crée des discriminations qui touchent tous les domaines de la vie. Et vous montrez que cette séparation entre valide et non valide, c'est quelque chose qui est construit socialement. Est-ce que vous pouvez expliquer ça?
Oui, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, le handicap, par opposition à la validité, ce sont des constructions sociales qui se basent en fait sur une grille de capacité qui est liée aussi à la médecine, au fameux modèle médical du handicap, dont on reparlera peut-être. Mais voilà, j'explique brièvement pour pouvoir continuer mon argumentation. Mais l'idée, c'est que le handicap, il a été analysé, compris, sous le prisme du modèle médical du handicap, ce qu'on a appelé. Donc en fait, on estime voilà que le handicap, c'est dû à un corps d'une personne, une personne dont le corps est défaillant, dont les capacités ne sont pas bonnes, où il y a un manque, une incapacité par rapport à une norme valide, un corps valide, un corps idéal, parfait. Il doit marcher, entendre, voir, comprendre d'une certaine façon, selon des critères de capacité qui peuvent aussi qui sont établis par des tests, hein. On pense notamment aux tests de QI, des choses comme ça. C'est très codifié. C'est mené par des médecins ou par des professionnels de santé qui vont établir un diagnostic et qui vont dire voilà votre corps il est malade, il est incapable, il n'a pas les bonnes capacités, et donc en découle le handicap. Vous êtes une personne handicapée parce que voilà votre corps ne correspond pas aux capacités qu'on attend socialement d'un corps dit normal. Par opposition, du coup, les corps valides se construisent aussi, les constructions d'identité sociale valide se construisent aussi, tout en sachant que, comme on dit toujours, la validité, c'est un idéal la validité totale, comme on dit, est inatteignable. Donc, on nous présente souvent la validité comme le Graal, comme ce qui est indispensable pour être heureuse dans la vie, hein. Si on n'est pas valide, on est forcément malheureuse. Mais en fait, c'est là où s'inscrivent des failles. C'est est-ce qu'on est vraiment valide en fait? Est-ce que même les personnes valides sont valides? Est-ce que on n'est pas toutes potentiellement ou même actuellement en situation de handicap? Alors à des degrés divers, bien sûr. Hein, c'est des échelles où il y a des niveaux différents. Mais en fait, la validité, c'est un idéal qu'on nous fait miroiter à toutes, à tous, et qui est jamais vraiment totalement atteignable.
Ouais. Et cette norme du corps pleine capacité, c'est quelque chose qui peut évoluer aussi selon les époques et selon les lieux.
Ah oui, ça, c'est totalement dépendant d'un contexte social, historique. On voit à travers les époques ou à travers aussi des comparaisons entre certains pays que les personnes handicapées ne sont pas les mêmes, enfin, celles qui sont désignées handicapées ne sont pas les mêmes selon l'époque ou selon le pays où on est. Certaines capacités certaines incapacités, comme nous on dirait en France, ne vont pas être considérées comme des incapacités à un autre moment d'histoire ou dans un autre pays. Oui, la question des capacités, elle est fluctuante. Et puis surtout, l'idée, c'est de se dire qu'on est toutes et tous capables. C'est juste qu'on le fait différemment. Alors que justement, dans le système validiste, on va nous parler d'incapacité, comme si le fait de ne pas pouvoir correspondre à ce nom validiste nous privait de toute autre façon d'exister, en fait.
Et enfin, je sais plus, dans un autre podcast, c'était peut-être sur France Culture, j'avais entendu un exemple qui était assez parlant. C'est aujourd'hui en France, en tout cas, pouvoir porter des lunettes ou des lentilles, c'est quelque chose qui est hyper commun, mais c'est bien une adaptation du monde médical et de la société à quelque chose qui pourrait être un handicap, en fait.
Ah oui, bah je connais des personnes, si on leur retire leurs lunettes, elles peuvent plus rien faire. Elles voient vraiment rien. Donc elle pourrait plus se déplacer dans la maison, à conduire encore moins, aller dehors. Donc en fait, ils ont besoin de leurs lunettes. Alors certes, les lunettes, c'est rentré dans le commun, dans la vie quotidienne. On n'estime plus qu'une personne qui porte des lunettes est handicapée. Mais comme quoi, c'est des représentations en fait. C'est des valeurs qu'on attribue aussi à des prothèses, parce qu'en fait les lunettes c'est une forme de prothèse. Il y a des prothèses qui vont rentrer dans la vie quotidienne et qui vont être naturalisées. Enfin, on va plus parler de prothèses. C'est des objets du quotidien. Et puis d'autres, pour le coup, souvent quand c'est du handicap, c'est des prothèses qui vont être justement très stigmatisées, très vues de façon très négative.
Et donc pour revenir sur le modèle médical, donc le handicap, en tout cas en France, est traité principalement avec cette vision médicale. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail sur quoi ça repose, ce modèle médical du handicap, et qu'est-ce que ça peut générer? Peut-être aussi parler de votre expérience personnelle. Qu'est-ce que ça a créé comme expérience chez vous, le fait qu'on veuille absolument redresser votre corps à tout prix, alors que c'est pas forcément nécessaire, quoi.
Le modèle du handicap, c'est vraiment ce qui a le premier modèle qui a servi à comprendre le handicap dans le monde occidental, en tout cas, parce que même dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, c'était ce qui était aussi en cours. Et donc l'idée, c'était, comme je disais, d'analyser le handicap déjà sous le prisme de l'individu, c'est-à-dire c'était une personne qui était handicapée parce que son corps à elle était défaillant et du coup l'idée qui en découlait, c'est qu'il fallait redresser ce corps ou cet esprit ou ce psy, c'est, quand je dis corps, c'est l'ensemble de la personne. Il fallait la redresser, en tout cas, pour la faire à nouveau rentrer dans ces normes validistes dont on parlait. S'en est développé tout un tas d'institutions dites spécialisées, de rééducation déjà dans un premier temps, parce qu'on voulait quand même essayer de voir si c'était possible de redresser ses corps. Et puis si on s'apercevait que c'était pas possible, On a créé des institutions spécialisées de vie, quoi, de vie quotidienne, où on envoyait ces personnes irrécupérables dans des lieux en vase clos où elles sortaient pas, en fait. On les mettait entre elles, on formait des ghettos et on leur disait, on leur disait pas grand-chose d'ailleurs parce qu'on leur demandait pas du tout leur avis. Elles y allaient pour vivre, travailler aussi, hein, puisque tout est vraiment organisé en micro-société, hein. Tout est fait pour que la personne handicapée ne sorte pas de ces institutions spécialisées, mais qu'elle serve quand même à cette société capitaliste qu'est la nôtre. Donc la question du travail est loin d'être éloignée de cette sphère-là, puisqu'on trouve tout un tas d'institutions spécialisées consacrées à la question du travail des personnes handicapées, où on y reviendra peut-être, mais il y a une exploitation, une forme d'exploitation quand même assez grave. Mais du coup, oui, ces institutions spécialisées, pour le coup, c'est aujourd'hui peut-être le cœur de la lutte antivalidiste, la fermeture de ces fameuses institutions spécialisées. C'est une recommandation qui a été formulée par des instances internationales comme l'ONU, qui a montré, expliqué que ces institutions étaient contraires aux droits humains, et que beaucoup de pays avaient commencé ce processus de désinstitutionnalisation, qui bien sûr est un processus long, hein, on va pas se mentir. Il s'agit pas justement de fermer les institutions en une semaine et de dire voilà, débrouillez-vous maintenant. C'est un processus qui va prendre du temps, mais c'est un processus qu'il faut mettre en place. Il faut établir des plans, des objectifs. Et ce que font d'autres pays européens, parce que ne fait pas du tout la France, qui a pour tout.
Ouais. Pour parce que le fait de fermer les institutions, enfin de désinstitutionnaliser, ça veut dire aussi mettre beaucoup plus d'efforts et de moyens pour que les personnes handicapées puissent vivre avec, enfin avec tout le monde en fait. Vu le contexte de la politique les restrictions budgétaires. Est-ce que ça vous paraît en bonne voie?
Alors, le problème de la France, déjà, c'est que même sur son budget alloué à la politique du handicap, le problème, c'est que comme elle ne veut pas renoncer à ses institutions spécialisées, la moitié déjà du budget part dans le fonctionnement de ces institutions spécialisées. Parce que la France, en fait, elle estime qu'on doit pouvoir ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Donc, on doit pouvoir et promouvoir une vie autonome, ce qu'on appelle donc le contraire de la le contraire de l'institutionnalisation, le fameux mouvement pour la vie autonome, voilà, qui s'est développé notamment aux États-Unis, etc. Dont il y a une branche française qui existe, qui s'appelle ACHA, la coordination handicap et autonomie, qui travaille spécifiquement sur ces questions-là de vie autonome. Donc, en fait, la France, elle estime qu'on peut promouvoir cette vie autonome, mais qu'on doit quand même garder les institutions spécialisées. Donc, en fait, la politique, le budget qui est alloué à la politique du handicap, il est coupé en deux. Donc, en fait, il y a déjà, rien que ça, une part très importante, la moitié, qui part dans le fonctionnement de ces institutions spécialisées, alors que nous, militants antivalidistes, et pas que nous, hein, puisque on parlait de l'ONU tout à l'heure, expliquent que ces institutions doivent être fermées. Donc, déjà, ne serait-ce que ça, si on pouvait récupérer cet argent pour le remettre dans la vie autonome, ça serait déjà un bon point, je pense.
Associé à ce modèle médical du handicap, il y a une vision caritative et misérabiliste qui prédomine, qui empêche de traiter le sujet du handicap comme un sujet véritablement politique, et aussi de considérer les personnes handicapées comme des sujets de droit et non des objets de soins. Un exemple, enfin un symbole de cette vision caritative, c'est le Téléthon. Est-ce que vous pouvez raconter un peu votre expérience avec le Téléthon et comment vous avez changé de vision et en quoi c'est un symbole justement de cette approche misérabiliste?
Oui, alors bon, moi, mon handicap, il est issu d'une maladie génétique, une des maladies dont on parle beaucoup au Téléthon. Hein, forcément, quand j'ai été diagnostiquée, mes parents ont plus ou moins rapidement été vers l'association du coup qui gère le Téléthon. Moi, il se trouve que je suis née la première année du Téléthon. Le premier Téléthon s'est fait quelques mois après ma naissance. Voilà, c'était. Mais au-delà du Téléthon, il y a une association qui est derrière, qui s'appelle AFM, et qui est à la base une association de parents de malades. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est important, bien sûr, de promouvoir la recherche. Enfin, après, même si ça pose des questions éthiques, on dit toujours, nous, militants antivalidistes, qu'on n'est pas contre la recherche médicale. On en bénéficie, on espère pouvoir en bénéficier encore. Donc, on n'est pas du tout contre la recherche médicale, mais on estime que c'est à l'État de s'occuper de ça, en fait, et que c'est un bien commun qui est encore une fois bénéfique à tout le monde, pas que à nous, personnes handicapées, personnes ayant des maladies rares, comme ils appellent en l'occurrence au Téléthon. Donc c'est un bien commun qui doit être en charge de façon communautaire par l'État, etc. Et pas faire appel à des dons privés, à la bonne conscience individuel qui, soit dit en passant, va donner, les personnes vont donner de l'argent au Téléthon, mais vont pas se poser la question du reste de l'année, de ce qui se passe justement dans le quotidien des personnes handicapées, dans le validisme du quotidien, dans les choix politiques qui sont faits concernant les personnes handicapées. Tout ça, voilà, c'est oublié, c'est pas du tout, et c'est des choses qui sont pas abordées au Téléthon, parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est pas de politiser le handicap, c'est pas de parler de validisme. L'objectif, après, on va pas se mentir, c'est de récolter de l'argent. Donc, pour récolter de l'argent, il n'y a pas de secret. Hein. C'est faire pleurer les gens et leur expliquer à quel point les pauvres petits enfants malheureux, parce que bon, même s'il y a des adultes qui ont des maladies génétiques, c'est moins vendeur que des enfants. Donc, on va privilégier les enfants. Et de leur dire que voilà, ces pauvres enfants, ils n'ont pas la chance d'être valides, justement, de pouvoir marcher, de pouvoir courir avec leurs copains, comme la phrase préférée des présentateurs, et que donc il faut donner de l'argent. Voilà, comme je dis, il n'y a pas de secret pour récolter de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, bah oui, comme mes parents ont pris contact avec l'association, parce que encore une fois, c'était un monde, enfin c'était une société où même encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, on parlait pas du tout de ces questions-là. Donc mes parents, ils ont subi comme beaucoup beaucoup d'autres parents le poids du discours médical, leur disant que j'allais mourir et que justement fallait me mettre dans une institution spécialisée en attendant ma mort.
Ouais, et pas s'attacher à vous.
Voilà, pas m'attacher à moi. Mais ça, je le dis tout le temps, ça arrive à mes parents, mais ça arrive à tellement, tellement d'autres parents. Et c'est ça qui montre la force, malheureusement, du validisme. C'est que c'est pas une histoire individuelle. C'est une histoire qui est récurrente. Et encore aujourd'hui, malheureusement, dans le parcours des parents, qui ont des enfants, qui ont la même maladie que moi ou des maladies similaires. Donc face au poids de ce validisme, oui, forcément, se regrouper entre parents qui avaient donc des enfants ayant ces maladies-là, c'était essentiel. C'était un soutien. Mes parents, ils avaient besoin de cette association, et elle les a soutenus, elle les a aidés. Et du coup, logiquement, quand Téléthon est apparu, oui, j'ai fait participer. Au Téléthon, mes parents étaient dans le public, on a fait partie des familles du Téléthon, parce que c'était une suite logique pour mes parents que de participer aux actions de l'AFM. Quand on commence à comprendre qu'il y a d'autres voies possibles, que nos situations, elles sont pas écrites de façon indélébile, comme ça a été pour nous, pour d'autres, avec ce poids du discours médical, qu'on peut changer les choses, qu'on peut politiser la question du handicap, qu'on peut faire en sorte que le validisme soit moins présent, voire un jour disparaisse. On s'est dit qu'il y avait d'autres alternatives que le Téléthon, en effet.
Et la question que ça pose, parce que cette approche misérabiliste à considérer que voilà, les personnes handicapées, les enfants handicapés sont des pauvres enfants qui n'ont pas la chance d'être valides, ça pose la question de qui est-ce qui détermine les critères qui font qu'on peut dire qu'une vie est digne et bonne, quoi.
Ah ben ça, c'est une bonne question. C'est un débat philosophique, je pense, de tout temps presque. La question de qu'est-ce qu'une vie bonne, c'est moi qui ai fait des études de philo. Ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la philosophie. Voilà. Mais là, en l'occurrence, quand on parle de validisme, bah, comme je disais, c'est la question de la vie bonne, elle est très liée à la médecine, donc est un validiste établi par les médecins, mais les médecins, encore une fois, ils font partie prenante de la société validiste. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, c'est pas eux qui créent la société validiste, ils en font partie, ils sont imprégnés, voilà, de tous les validismes ambiants, ils grandissent en tant qu'enfants dans cette société validiste, ils intègrent les préjugés que la société validiste peut véhiculer, et donc, du coup, une fois devenu adulte, une fois devenu médecin, ils vont reproduire ces critères validistes en tant que médecin.
J'imagine aussi, enfin, j'imagine, j'ai lu dans votre livre que ça, tout ce validisme et le fait de ne pas considérer les corps et les vies des personnes handicapées comme suffisamment dignes ou normaux, ça affecte tout la construction émotionnelle et affective et le rapport aux autres, quoi.
Bah oui, parce que là, après, forcément, quand vous ressentez cette stigmatisation sur vous, votre corps, votre vie, que vous comprenez que votre vie elle a moins de valeur, que votre corps il est pas beau, que vous êtes pas désirable, toutes ces questions-là, forcément, ça a un impact sur ce qu'on appelle l'estime de soi en psychologie. Et je pense notamment, voilà, à la construction. Quand on est enfant, adolescente, il y a une période de construction aussi importante, justement, où on a besoin de se sentir valorisé, reconnu, aimé, pour justement prendre confiance en soi et pouvoir avancer dans la vie d'adulte de façon positive. C'est clair que quand vous êtes une adolescente en situation de handicap, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas l'image qu'on vous renvoie autour de vous et aussi par exemple dans la culture. Je parle souvent de la culture parce que c'est souvent quelque chose qui appuie les représentations qu'on peut se faire de nous-mêmes en tant qu'ado. Notamment, je pense, on s'identifie beaucoup à des personnages de fiction, de séries, de livres, etc. Et en fait, des personnages de personnes handicapées positives, enfin, des personnages positifs dans la culture, on n'en trouve pas, quoi. Commence un petit peu, mais il faut vraiment chercher, quoi.
Faut vraiment chercher, ouais. Ouais. Découverte des enjeux politiques autour du validisme, des disability studies, etc., ça a dû un peu changer votre vie, en tout cas votre façon de vous percevoir et de vous analyser dans le monde. Comment est-ce que vous avez découvert justement les disability studies?
Ah bah oui, pour moi ça a été une révolution, hein, et je sais que c'est pas que pour moi, encore une fois, c'est ça qui est magique entre guillemets dans le validisme, enfin dans le système d'oppression, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on vit, on est des millions à le vivre. Et en fait, les personnes ont dit qu'ils peuvent avoir accès aux disability studies, elles ont tout dit, mais c'était une révolution, quoi. Mais voilà, après, il faut pouvoir y avoir accès parce que c'est déjà souvent c'est en anglais, donc faut avoir la possibilité de comprendre un minimum l'anglais, avoir accès souvent aussi à des études universitaires, ou aussi s'investir, enfin quand on peut s'investir dans la militance, ça donne aussi accès à tout un tas de réseaux qui peuvent aussi vous aider à développer vos réflexions. Mais voilà, c'est pas évident, militer, c'est très compliqué pour les personnes handicapées pour tout un tas de raisons, donc il faut pouvoir le faire. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Moi j'ai pu avoir accès aux disability studies par mes études, parce que j'ai fait des études supérieures, que j'ai été plusieurs fois en Angleterre où il y avait déjà des choses qui se passaient là-bas, où j'ai milité, et du coup j'ai pu créer du réseau, des liens avec des militantes anglaises par exemple notamment. Donc c'est comme ça que j'ai découvert tout ça. Mais encore une fois, c'est pas forcément possible en l'état actuel pour tout le monde. Et c'est ça aussi peut-être qu'il faut développer, c'est l'accès à l'information. C'est ce qu'on essaye de faire aussi, par exemple, au collectif Les Dévalideuses, en traduisant des textes pour les rendre plus accessibles à des personnes qui ne seraient pas anglophones. Voilà, c'est pouvoir vraiment mettre ces ressources à la portée de toutes et tous.
J'aimerais bien qu'on parle un peu du lien entre le handicap et enfin le validisme et le capitalisme, parce qu'il y a pas mal de liens entre les deux. On vit dans un système capitaliste qui prône le travail, la productivité, l'efficacité comme ses valeurs phares, et on est donc dans un système qui à la fois qui sort les personnes handicapées du monde du travail. Et qui, de l'autre côté, affaiblit ou détruit toujours plus les services publics. Est-ce que vous pouvez un peu parler de ces liens entre le capitalisme et le validisme ?
Bah, moi, en fait, comme je l'explique dans le livre, j'ai commencé à militer au sein d'un parti qui s'appelle le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, parce que, certes, c'était des questions de validisme. Alors, on parlait pas de validisme à l'époque, mais de discrimination, les handicaps qui m'intéressaient et qui m'animaient principalement dans mon envie de militer, mais je savais que c'était lié à tellement d'autres choses, à un projet de société global, que pour moi c'était important de pouvoir militer au sein d'un parti qui intègre ces questions au sein d'un projet de société. Et en l'occurrence anti-capitalisme, parce que oui, le capitalisme pour moi c'est un générateur plus de handicap parce que même pour des personnes qui sont identifiées comme valides, souvent par le travail elles deviennent handicapées, par les conditions capitalistes en fait du travail elles deviennent handicapées, par cette vision de devoir toujours produire plus, de devoir mettre les corps à rude épreuve pour plus de productivité, pour plus de flexibilité.
Les corps et les esprits aussi.
Les esprits, c'est ce que j'allais dire, parce que on parle aussi, de beaucoup de handicaps psy, qui se développent au travail, de dépression, de suicide, des conséquences du travail, très graves, des conditions de travail capitaliste très graves, qui génèrent les handicaps. Et puis oui, de l'autre côté, forcément, pour les personnes, qui sont handicapées, pas forcément en lien avec le travail, soit de naissance ou par accident autre, et qui justement souvent assez jeunes du coup vont devoir être confrontés à ce qu'on appelle l'entrée dans le monde du travail, c'est très très compliqué, oui. Comme on disait tout à l'heure, c'est le taux de chômage des personnes handicapées, il est exponentiel, et c'est pas un hasard, hein. Déjà parce que je pense que il y a aussi le problème de l'accès à l'école en amont qui fait que les personnes handicapées aussi n'ont pas forcément les compétences acquises par une formation comme tout à chacun et chacune puisque beaucoup d'élèves en situation de handicap sont privés d'école parce qu'il n'y a pas les accompagnements nécessaires. Toutes les rentrées scolaires, on voit les scandales que ça peut provoquer. Donc déjà, quant à la base, il y a un problème de formation. Ça aide pas à rentrer dans le monde du travail avec des bonnes compétences et dans des bonnes conditions. Mais même au-delà de ça, les quelques personnes, parce que il y en a quand même si je pense que c'est pas la majorité, mais il y en a quand même des personnes handicapées qui arrive à faire des études et qui postule au monde du travail, on voit à quel point c'est compliqué, quoi. Parce que encore une fois, les lois ne sont pas respectées aussi, les lois d'accessibilité pour les entreprises.
Mais les entreprises préfèrent payer une amende éventuellement plutôt que de... C'est combien le pourcentage de... 7%, non ?
6%.
Enfin, l'obligation pour les entreprises au-dessus de...
Oui, mais en fait, il y a tellement de moyens aussi de...
Pas le faire.
De pas le faire, voilà. Et par exemple, on parlait des établissements spécialisés. C'est aussi une façon, par exemple, de remplir ce fameux quota. C'est-à-dire qu'en sous-traitant... avec ce qu'on appelle un ESAT, un établissement de travail protégé pour personnes handicapées, on va remplir ce quota de 6%. Sauf qu'en fait, nous, c'est pas ce qu'on demande du tout, quoi.
Et justement, sur les ESAT, c'est des les personnes qui travaillent, elles ne sont pas en fait soumises au droit du travail normal.
Exactement.
J'ai appris ça il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas de droit du travail dans les ESAT, donc en fait, donc du coup, ça veut dire pas de droit de grève, pas de syndicat. En fait, les personnes qui travaillent là-bas ne sont pas considérées comme des travailleuses. C'est des usagères dans le service médico-social. Donc
elles travaillent, mais sans les droits du travail.
Sans droit du travail et complètement sous-payées, hein, parce que c'est des salaires de misère. Voilà. Et puis, avec le côté éthique, hein, toujours, bien sûr, puisque on fait travailler des personnes handicapées, donc on sait qu'on on fait une bonne action. Les aides bénéficient comme ça d'un côté éthique totalement, enfin, qui pour moi est vraiment le fruit de l'incompréhension et la méconnaissance totale de justement de ce qui se passe sur les questions politiques du handicap et du validisme. Quoi.
Sur le capitalisme et handicap, là il y a quelque chose qui m'avait fait pas mal tiquer là ces derniers temps, c'est les cafés joyeux.
Oui.
Je sais pas, est-ce que vous pouvez expliquer le problème avec les cafés joyeux, s'il vous plaît?
Bon, alors j'avoue que je me suis pas intéressée plus que ça à cette question parce que rien que de voir le peu de choses que j'ai dessus, ça me donnait pas envie, quoi. Enfin voilà, ouais, je sais que c'est en plus promis justement par la droite catho facho qui est derrière tout ça. Donc déjà voilà, enfin en fait on voit comment tout est instrumentalisé et encore une fois sous couvert éthique, hein, parce que dès qu'on touche au handicap, de toute façon on est quelqu'un de bien. C'est, on peut être le pire criminel du monde, si on aide une personne handicapée, on devient le meilleur, on devient un saint. C'est ce qu'on retrouve malheureusement aussi dans le cas des violences sexuelles, quoi. C'est-à-dire que un violeur, donc un criminel qui va violer une femme handicapée, bah oui, mais comme elle est handicapée, il a été sympa de s'intéresser à elle, quoi. C'est on transforme la situation en fait en faisant passer des criminels pour des bienfaiteurs. C'est, dès qu'on touche au handicap, c'est ça en fait. Il faudrait vraiment que la société prenne conscience de ça, quoi, que côtoyer des personnes handicapées ne font pas, enfin, des gens qui côtoient les personnes handicapées ne sont pas tous des bienfaiteurs.
Non.
Loin de là.
Et bien, justement, pour parler un peu des liens entre le sexisme, les violences et le handicap, l'analyse croisée du sexisme et du handicap, c'est quelque chose qui se développe, mais qui n'est pas encore très bien pris en compte, même dans les mouvements féministes aujourd'hui. Vous avez beaucoup étudié ces liens, et notamment sur la question des violences. Je pense que c'est assez mal su que les femmes handicapées sont les premières victimes de violences sexuelles, parce qu'elles sont dans des situations vulnérables, qu'elles sont aussi isolées, et c'est un sujet dont on parle pas.
Bah c'est ça en fait. C'est malheureusement, je pense, l'exemple le plus glaçant de lien entre sexisme et validisme. Et aussi malheureusement de manque de prise en compte des questions validistes dans le mouvement féministe. C'est que la question de ces violences sexuelles, elle est. Alors c'est un sujet qui est beaucoup abordé dans le milieu féministe. Il y a des tas d'actions qui sont faites pour lutter contre ces violences sexuelles. Mais en fait, quand on voit ce qui est fait, ce qui est proposé, on ne parle jamais des femmes handicapées. Et pourtant, parallèlement, si on creuse un peu la question, on s'aperçoit, comme vous dites, que d'après des enquêtes qui ont été menées par différents cabinets, etc., ministériels, etc., les femmes handicapées sont les premières victimes de violences sexuelles. Donc en fait, pourquoi on n'en parle pas?
Et à la fois, en plus, ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est que les corps des femmes handicapées, à la fois, ne sont pas vraiment considérés comme des corps de femmes. Il n'y a pas cet enjeu de séduction, de corps sexualisés, etc. Mais en même temps, ce sont des corps qui sont disponibles pour commettre des violences, quoi.
Ben, c'est cette désexualisation en fait qui crée la vulnérabilité et qui crée, comme vous dites, la disposition. C'est-à-dire que comme c'est des corps qu'on ne sexualise pas, on leur attribue pas de sexualité potentielle. Donc au final, quand il se passe quelque chose, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, le violeur s'est intéressé à quelqu'un dont personne ne s'intéresse, à laquelle personne ne s'intéresse. Donc il a plutôt fait une bonne action que un crime quoi. Donc c'est vraiment ça et c'est vrai que la désexualisation des corps des femmes handicapées et aussi leur enfermement dans les institutions spécialisées encore une fois hein, parce que c'est un haut lieu de violence sexuelle ça crée en fait des conditions de vulnérabilité de ces femmes. C'est-à-dire que la vulnérabilité elle n'est pas tant inhérente au handicap et à la personne elle-même, elle est en grande partie créée socialement, quoi.
Et j'imagine que ça doit être assez difficile de porter plainte ou de mener à bien un procès quand on est une femme handicapée.
Oui, bah parce que déjà, il faut que les tribunaux soient accessibles, que y ait du personnel compétent pour recueillir votre plainte, parce que voilà, si voilà, il faut que quelqu'un, je sais pas, puisse parler en LSF ou puisse avoir certaines dispositions pour que vous puissiez parler.
Que les préjugés soient évités par les personnes qui prennent la plainte, etc.
Exactement. Et puis aussi la question du consentement, c'est que en fait, on parle aussi beaucoup de manque de formation des jeunes personnes handicapées. Et notamment des femmes, puisque voilà, enfin, en tout cas des personnes assignées femmes qui sont victimes de ces violences, c'est qu'en fait, dans les lieux où elles vivent, donc souvent, on leur enseigne pas ce que c'est que le consentement, en fait, puisqu'on estime qu'elles n'ont pas de sexualité de toute façon. Donc à quoi ça sert? Donc en fait, déjà, voilà, il y a un problème aussi de ce côté-là, où il faut que ces personnes, elles puissent comprendre qu'elles ont le droit de dire non.
Vous analysez le handicap au croisement donc d'autres systèmes d'oppression, comme on a dit, et vous avez développé une vision d'un anti-validisme qui est aussi féministe, queer et intersectionnel, et notamment en partant de l'analyse du corps sain. Donc le corps sain, finalement, c'est le corps masculin, hein. Le corps masculin, blanc, hétéro, cisgenre et dyadique. Cette analyse, enfin, de la norme qu'est le corps sain, ça permet de comprendre les expériences vécues par les autres corps, que sont les corps racisés, les corps de femmes, les corps de personnes trans, handicapées. Est-ce que vous pouvez un peu développer là-dessus autour de cette idée de corps sain et malsain, on va dire?
Bah, c'est là où je pense qu'on se rend compte à quel point le validisme, c'est une lutte centrale, en fait. C'est que, à travers ce qu'on disait sur les questions de normes médicales, autour des bonnes et des mauvaises capacités, de ce à quoi doit correspondre un corps normal, en bonne santé, voilà, au top de ses capacités, toutes ces idées validistes, en fait, elles impactent toutes les minorités. Elles ont été utilisées contre les minorités. Voilà, que ce soit pour les personnes trans, intersexes aussi. On a vu le scandale voilà, des enfants intersexes qui ont été mutilés parce qu'on devait les faire entrer dans cette catégorie binaire. Donc les normes médicales ont été utilisées justement, les normes validistes. Hein. Moi, je pense qu'on peut dire les normes validistes ont été utilisées contre ces enfants intersexes. Et les femmes, pareil, les personnes assignées femmes dans la société, le validisme les impacte énormément. On le voit à travers le traitement médical de leur corps, en fait. On voit comment aussi les problèmes qui peuvent être entre guillemets typiquement liés au féminin sont souvent balayés en mode non mais c'est dans ta tête. Donc voilà, et puis par contre quand ça peut engendrer le manque à la productivité comme les grossesses par exemple, là on va bourrer les corps d'hormones parce que bah oui une femme enceinte c'est une femme moins productive au travail, donc voilà, donc il y a tout un tas de normes validistes qui impactent toutes les minorités, et du coup cette idée du corps sain, du corps malsain à l'opposé, c'est en fait le corps malsain, c'est le corps des minorités quoi, c'est ça, C'est le corps qui va pas être productif, enfin productif au sens capitaliste du terme, qui va pas avoir les bonnes capacités. Voilà, c'est
Être déviant.
je pense qu'on peut dire que les normes validistes sont centrales et que, enfin, centrales pour comprendre ce qui se passe dans le vécu des minorités et que du coup les luttes anti-validistes sont essentielles.
Et vous, plutôt que donc la séparation entre cette norme valide et la déviance entre guillemets que serait le handicap, vous développez l'idée d'un continuum.
Bah, c'est l'idée qu'en fait on est toutes et tous potentiellement handicapés, plus ou moins handicapés. Enfin, il y a aussi une temporalité qui joue. Voilà, peut-être qu'à un moment on va être plus valide et puis à un autre moment de sa vie on va devenir plus handicapé. Mais au final, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est vraiment valide même quand on est dite personne valide? Qu'est-ce que c'est que vraiment la validité? C'est en fait, je pense que la validité absolue, elle n'existe pas, elle n'est pas du tout atteignable et je pense qu'elle n'est même pas en fait souhaitable parce que justement, c'est quelque chose qui nous fait croire que c'est le seul salut pour être heureuse, alors que pas du tout. Et du coup, ça nous empêche, comme je disais, de développer d'autres alternatives, d'autres possibilités d'être au monde qui sont tout aussi intéressantes et qui rendent tout aussi heureuses. Sauf qu'en fait, comme on n'en parle pas, et comme on leur laisse pas la possibilité d'exister, on dit que sans validité, pas de salut, ben voilà, on en est là. Mais du coup, la validité, le handicap, c'est des éléments qui sont présents partout en fait chez tout le monde à des degrés divers encore une fois mais qui sont pas opposés je pense que justement binariser les personnes entre d'un côté les personnes handicapées d'un côté les personnes valides c'est néfaste parce qu'en plus du coup il y a toute cette association négative autour du handicap avec tout un tas de références qui sont totalement péjorative, on va parler de vulnérabilité, de dépendance. En fait, toutes ces questions, pour moi, je dis toujours, elles font partie de la condition humaine. On est toutes et tous vulnérables, dépendants les uns les unes des autres, à des moments divers. Donc, en fait, il n'y a pas à stigmatiser ces réalités. Mais pourtant, quand on parle de handicap, tout de suite, c'est associé de façon stigmatisante. Donc, je pense que relier handicap et validité, ça permettrait, que le monde soit meilleur pour tout le monde.
Merci beaucoup, Charlotte. Je pense qu'on a un peu défriché le sujet. Il y a encore, évidemment, beaucoup de choses à dire. Et, en tout cas, ça a été super important pour moi. Et même si j'imagine que les auditeurs, auditrices, parfois ne voient pas trop le rapport entre l'écologie et les sujets que j'aborde, je pense que, en tout cas pour moi, la définition d'un monde et d'un futur écologique, c'est un monde qui permettrait à tous et toutes d'être émancipés et de pouvoir vivre dignement. Donc moi, je vois bien le rapport entre tout ça. J'espère que ça fera sens aussi dans l'esprit des auditeurices. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawel, mixé par Paloma Colombe. À très vite. Spectre.